I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais moi, j'avais pas vu le premier en salle à l'époque de la sortie.
Ah ouais.
Et je l'ai vu. En fait, je l'ai vu en vidéo. Et en fait, ce qui s'est passé
putain,
ensuite.
Putain, mais un mythe s'effondre.
Attends.
Je te verrai plus jamais de la même façon. Je peux terminer. C'est fini.
Et ah ensuite, non, c'est pas possible. Je suis allé voir Die Hard et Die Hard 2 en double programme au Hollywood Boulevard, tu sais, le cinéma de René Château, en 92.
Donc après la sortie.
Après la sortie de Die Hard 2.
Putain, c'est dingue.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors cette semaine, on va passer directement au numéro 2. On va parler de Die Hard 2, 58 minutes pour lui. Je suis avec mon ami Julien Dupuis pour en parler. Salut Julien.
Ouais. Bonjour.
Yippie-ki-yay. Non, parce qu'en plus, dans celui-là, en VF, ils le disent pas.
Il dit c'est pas la Saint-Jean, mais tant pis.
C'est pas la Saint-Jean, mais ça fait rien.
Ça fait rien, voilà. C'est ça.
Parce qu'ils se sont dit, bon, on sait pas ce que ça veut dire.
C'est fou.
Voilà. Die Hard 2 de Reinier Lehner. Pourquoi Die Hard 2 et pas Die Hard? Alors, comme on le dit assez souvent maintenant dans les podcasts, donc ceux qui suivent le savent, quand il y a un très grand film sur lequel on a envie de faire une vidéo, en fait, en général, on ne fait pas de podcast.
Au hasard, on prend Charlie et ses drôles de dames de McGee, voilà.
Donc ça, on fait une vidéo.
Tu fais une vidéo, voilà.
Et quand c'est le Charlie's Angels de... comment elle s'appelle
Elisabeth Banks. Merci Alain et la technique. C'est lui que vous l'avez entendu, c'est notre souffleur. Hein. On lui doit tout.
Nous sommes en oreille. Donc Elisabeth Banks, j'allais dire maman. quand c'est le Charlie's Angels de maman, on fait un podcast, tu vois, voilà. Donc là, c'est un peu.
Et quel podcast?
Voilà. Et là, c'est un peu la même chose avec Die Hard 2, parce que bon, c'est sympa Die Hard 2.
C'est cool.
Mais c'est pas Die Hard.
Non, bien sûr, évidemment.
Et Die Hard, il y aura forcément à un moment donné une vidéo. Sinon,
tu vas jamais réussir à le faire. C'est trop important pour toi comme film.
Tu sais, j'ai fait un HS entier sur Die Hard.
Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on vient de découvrir juste avant de lancer le podcast que toi et moi, on a vu le 2 avant de voir le 1.
Non, j'ai vu le 1 en vidéo d'abord.
En vidéo, d'accord. Ouais.
Par contre, j'ai vu le 2, c'est le premier que j'ai vu en salle.
Ah, d'accord.
Le premier des Die Hard que j'ai vu en salle.
Ah, parce que moi, j'ai vu le 2 avant.
En même temps, il n'y a que 3 Die Hard en vrai. Hein.
Oui, non, mais bien sûr.
Voilà, donc en fait, est-ce que ça compte de dire que j'ai vu Die Hard 4 et Die Hard 5 en salle alors que, en fait, je n'ai pas vu le premier?
On va essayer de ne pas partir dans tous les sens, mais c'est intéressant parce que je pense que c'est là-dessus où on va. C'est intéressant de le considérer en tant que suite. En tant de ce qu'il faut faire.
C'est impossible de le considérer autrement, je pense.
Autrement, mais même, c'est un truc important. Donc, déjà, c'est un film qui vient. C'est un beaucoup plus gros budget que le premier, je pense qu'il faut peut-être penser.
Par défaut, ça, il faut le préciser.
Oui, enfin, c'est un film à problème aussi.
Voilà.
Mais à problème de production, on va dire. C'est pas un problème artistique. C'est-à-dire que c'est un problème. Alors, déjà, c'est un film qui s'est fait quand même très vite.
On peut dire qu'il y a un problème artistique.
Non, mais il y a des problèmes artistiques dans le film, mais qui n'ont pas eu de réel impact, en fait, sur le budget. S'il y a eu un problème sur le budget. Alors, déjà, le budget inflationniste, parce que c'est à beaucoup plus grosse échelle. C'est-à-dire que là, t'es sur un aéroport, donc il y a beaucoup plus de figurants, par exemple. C'est aussi en hiver à Washington, donc il y a de la neige. Et ça, on sait que les tournages avec de la neige, en règle générale, c'est hyper problématique.
Qu'il y en avait pas, en fait.
Et là, il n'y en avait pas. Ils ont tourné sur plein d'endroits différents, et notamment, je crois que c'est l'aéroport de Denver, je crois, dans le Colorado. C'était un hiver, il n'y avait pas de neige, donc il fallait qu'ils importent de la neige
artificielle,
de la glace.
Bon, là, tu vas très très loin.
Donc, c'est aussi pour ça que c'est un gros budget, mais c'est aussi un gros budget parce que il y a beaucoup plus de personnages, il y a beaucoup plus de grands spectacles. C'est pas pour ça que tu t'en prends plus plein les mirettes que dans le premier Die Hard, mais là, il y a des avions qui explosent, il y a des morceaux d'aéroport qui explosent. Enfin, voilà, c'est énorme.
En fait, c'est un film qui a été lancé juste après le succès du premier. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que, dès le lendemain du succès surprise de Die Hard, puisqu'il faut préciser qu'ils étaient tellement emmerdés à l'idée que ce soit Bruce Willis.
Emmerdés. Alors, je pense à Elisabeth Banks qui nous écoute. Je pense qu'elle aime bien quand t'as un langage un petit peu plus châtié, Stéphane.
C'est vrai. Putain, pourquoi est-ce qu'on ramène Elisabeth Banks dans tout ça, quoi? Tiens. Parce que je l'ai appelé maman, c'est
voilà,
ça.
Voilà, exactement.
Non, en fait, le truc, c'est que ils ont lancé le film très rapidement derrière et avec un scénariste qui a finalement été remplacé par Steven De Souza en cours de route aussi.
Et avant le scénariste, il y avait aussi la même mode de fonctionnement que le premier Die Hard. C'est-à-dire, ils étaient adaptés aussi d'un roman qui n'a rien à voir avec le roman
qui s'appelle 58 minutes, qui n'a rien à voir avec le roman qui inspirait Die Hard.
Exactement, il n'y a pas du tout les mêmes personnages et tout. Le seul truc, c'est que là aussi où ça procède de la même logique, c'est que de la même façon que le premier Die Hard a dans ses gènes un côté film catastrophe, et plus spécialement les films de catastrophe qui se faisaient dans les années 70 et qui étaient les ancêtres des blockbusters qu'on verra dans les années 80 et 90, dans le 2, 58 minutes pour vivre, il y a aussi ce côté film catastrophe qui va finalement totalement disparaître de la franchise.
C'était leur logique. C'est-à-dire voilà. Que alors, ça va disparaître à cause d'un truc très spécifique dont on va parler, je pense. Mmh. Mais en gros, effectivement, tu as une source littéraire. Mmh. Qui n'est pas la même pour les deux premiers films, hein. Un fonctionnement, un modus operandi en fait de production similaire, c'est-à-dire on va chercher un premier scénariste. Dans le premier, c'était Jeb Stuart, là c'était Doug Richardson, et on lui demande en fait de faire une première passe, et ensuite Steven De Souza arrive,
c'est ça,
et refont le tout, quoi. Donc là, pour le coup, Die Hard et Die Hard 2, c'est-à-dire Piège de cristal et 58 minutes pour vivre, fonctionnent plus ou moins de la même manière.
Même sur le choix du réalisateur. C'est-à-dire que dans le premier, Joel Silver était allé chercher McTiernan, bon, qui avait fait quand même Predator, qui était un gros film, mais qui était quand même un mec qui débutait, qui est en train de faire ses armes et tout.
C'était son troisième film. Hein,
et là, il va aller encore plus loin parce que c'est vraiment un mec qui vient tout juste d'émerger, qui est Rainier Harlin, qui avait fait Prison, qui était un film Empire, si mes souvenirs sont bons, d'horreur. Une production Charles Band, si mes souvenirs sont bons, et qui avait fait surtout, qui s'était fait repérer pour Freddy 4, qui est un film qui avait bien fonctionné, hein. C'était un gros succès, c'est un parmi les Freddy qui ont les mieux fonctionné. Je pense qu'il avait bénéficié de Freddy 3, qui est un des meilleurs films de la franchise, mais nous ne sommes pas là pour parler de Freddy, malheureusement. Un jour viendra, je pourrai parler de Freddy pour Capture. Mais ce qui était intéressant de Freddy 4, c'est que chez les professionnels de la profession, comme on dit, c'était un film qui s'était fait pas mal remarquer parce que c'était une production particulièrement en merde, comme le sera d'ailleurs le 5 plus tard, qui s'est fait dans une urgence, mais alors complètement délirante, et qui a une tenue technique finalement tout à fait respectable. Et Rainier Harlin s'était fait repérer pour ça, en fait. C'est pas pour avoir réussi ce petit tour de force. Quoi,
certes, mais ce n'est pas ce qui lui a obtenu le poste.
Ah.
Ce qui lui a obtenu le poste, en fait, c'est qu'il vivotait chez la Fox à ce moment-là. Voilà. C'est-à-dire qu'il était en développement pendant un an de Alien 3.
C'est vrai.
Pour ensuite faire un autre film pour Joel Silver qui était Les Aventures de Fort Fairlane, voilà.
Qui va sortir quasiment en même temps.
Qui va sortir quasiment en même temps, mais qui a été tourné avant Die Hard 2. Mmh. Et qui, en fait, parce que les rushs étaient de qualité, selon la Fox et selon Joel Silver, ils lui ont proposé d'entrée de jeu Die Hard 2, sachant qu'il fallait préparer Die Hard 2 pendant la fin du tournage de Fort Fairlane. Et si je ne dis pas de bêtises, en fait, quand il a fini de tourner Fort Fairlane, une semaine après, il se lançait sur le tournage de Die Hard 2, ce qui est quand même assez, sport, hein, faut le faire, quoi. Mmh. Ouais, il était très jeune à l'époque, hein, Rainier Harlin avait 32 ans, je crois, quand il a fait le film. Après, il y a l'idée que, aussi, John McTiernan a refusé ce projet, hein. Ça, s'il fallait le préciser, il est parti faire Octobre Rouge, et puis je crois que, quand on en a parlé avec lui après, il disait qu'il n'était pas vraiment intéressé à l'idée de refaire le même film. Et c'est
parce qu'il a été plus ou moins attaché, hein, au truc à un moment. Ouais, il l'a pas refusé d'emblée, non, McTiernan?
Non, mais je pense qu'en fait, quand il a été décidé de partir dans une logique, qui était, de plus ou moins faire le même film mais dans un aéroport, lui en fait il est parti sur autre chose. Et d'ailleurs, enfin, le Die Hard 3 le démontrera, mais ça c'est pareil, ça mériterait une vidéo, tu vois. Die Hard 3 démontrera que toute l'idée justement d'un troisième film pour McTiernan, puisque c'est lui qui l'a réalisé, il est revenu dans la franchise, c'était de casser les codes qui vont devenir extrêmement c'est une formule en fait qui va être extrêmement exploitée à Hollywood en fait,
on va dire la grosse décennie qui va suivre, hein.
Oui, alors avec quand même à un moment donné c'est lâché, parce que par exemple des films comme The Rock, c'est clairement un Die Hard exploitation, j'aime bien utiliser ce terme pour parler de voilà, mais par contre en fait ça se sent plus du tout quand tu regardes le film, c'est-à-dire que tu penses plus du tout à Die Hard quand tu es en train de regarder The Rock. Par contre,
Piège en haute mer,
c'est une évidence, et c'est ce qui a d'ailleurs fait que Die Hard 3 n'a pas été produit par Joel Silver et n'a pas été écrit par Steven De Souza, puisque ils avaient la même idée, ils voulaient faire ça sur un bateau. C'était censé être le troisième film. Et l'autre truc aussi, c'est que t'as pas mal de films qui sont sortis dans la foulée en fait de Die Hard et Die Hard 2, qui reprennent la formule, mais quasiment à la virgule près. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je me suis retapé récemment, me demande pas pourquoi, je me suis retapé Mort Subite avec Van Damme. C'est hallucinant, en fait. C'est-à-dire que c'est un film qui est sorti après Die Hard 3, mais qui prend vraiment, morceau par morceau, en fait, des scènes de Die Hard, en les refaisant piètrement, je trouve, tu vois, mais en fait, en tout cas, qui a fait
t'as eu Speed et tout, enfin bon, bref,
ça, Speed, c'est pareil, c'est un truc qui se ressent encore différemment, mais surtout, le truc avec Die Hard 2, c'est qu'on parle de Die Hard Potation, on parle de tous ces films qui ont pompé Die Hard, et moi, je trouve que le premier film qui a pompé Die Hard, c'est vraiment Die Hard 2, en
oui,
fait.
Oui, mais c'est plus...
C'est plus, la même franchise,
en fait,
certes.
C'est plus légitime. Après, le truc, ce qui est intéressant dans le positionnement de suite, le film a d'autres qualités, d'autres problématiques sur lesquelles on reviendra probablement plus tard, mais moi, je trouve que c'est hyper intéressant de l'appréhender comme suite. Dans ce qu'il fait de mal et dans ce qu'il fait de bien dans le truc de la suite. Et je pense que s'il y a un problème fondamental dans Die Hard 2, c'est que il comprend pas la substantifique moelle, en fait. De ce qui fait la saveur, en fait, du premier Die Hard, mais il comprend, il reprend tout ce qui fait les apparats, en fait,
tout ce qui est périphérique
et forcément ramener dessus, c'est grossier souvent et ça fonctionne assez difficilement. Il y a un truc qui est assez intéressant là-dessus, qui est le fait que pourquoi on aime McClane, en fait, autant dans le 1 et dans le 3, c'est parce que c'est un personnage d'action qui rentre dans l'art, qui a son propre caractère et tout, mais aussi parce qu'il est hyper intelligent et que c'est un mec hyper malin et que c'est le personnage de cartoon qui est hyper habile, qui va pouvoir déjouer les tours, voilà. Et là, dans Die Hard 2, il est moyen malin, en fait.
Ouais, ouais.
Par exemple, je pense, il y a une scène que je trouve vraiment où vraiment ils se sont dit il faut qu'il soit malin, mais en fait il est pas très malin, qui est la scène du gunfight, en fait, dans les trucs de bagages, en fait.
Ouais. Première scène d'action.
Qui est la première grosse scène d'action, parce que bon, là, on est vraiment dans le Joel Silver-like, quoi. C'est-à-dire que toutes les bobines, c'est-à-dire toutes les 20 minutes, t'as un climax, t'as une grosse scène d'action. Ça, c'est donc au terme de la première bobine, même un petit peu avant, et elle arrive très tôt, en fait, cette scène d'action-là. Je me souviens, ça m'avait frappé, moi, quand j'avais vu le film. Et en fait, ce qui est intéressant du truc, c'est que le truc de McClane, c'est comment il exploite, qui est le truc ultime du personnage d'action, finalement, quand tu y penses, c'est comment il exploite son environnement à son bénéfice, en fait. Et là, le seul truc, c'est qu'à un moment, il voit des clubs de golf qui passent devant lui, donc il se dit, bah, je vais en prendre un pour taper le mec.
Et puis il y a le vélo
et
aussi.
Et puis après, il voit un vélo et c'est juste, ça lui permet juste d'aller un peu plus loin. Et je me suis dit, putain, mais c'est hyper pauvre, en fait, quoi.
Le truc, c'est qu'on va peut-être pitcher très rapidement le film. Alors, Die Hard 2, en gros, c'est donc après les événements au Nakatomi
Plaza.
Ouais. Voilà. Le personnage de McClane a son petit quart d'heure de gloire. Il s'est rabiboché avec sa femme. Mm-hmm. Sa femme est en train de venir de Los Angeles à Washington pour voir la famille pour Noël. C'est de nouveau Noël, hein, comme dans le premier. C'est la toile de fond. Et en gros, McClane l'attend à l'aéroport. Sauf que McClane remarque qu'il y a des activités terroristes suspectes.
Mecs qui sont un peu louches, quoi.
Voilà, il a un super sixième sens pour repérer les terroristes, tu vois, ce qui est déjà un truc où t'as envie de lui dire, mais il a pas ça dans le premier, hein, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas un truc.
Non, mais par contre, c'est un truc.
Mais la situation lui tombe dessus dans le premier, là, il va vers la situation. C'est ça aussi la distinction, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est extrêmement passif dans le premier quand tu réfléchis. C'est-à-dire, il appelle les flics. Ensuite, il s'échappe, il appelle les flics, etc. Et ensuite, il commence à agir
malgré lui, ouais, vraiment.
Voilà. Alors que dans le 2, c'est-à-dire qu'en fait il appelle les flics, mais une fois que les flics lui font écoute, on a autre chose à foutre, tu vois,
il y va, mais marche plutôt, moi, je trouve, parce que c'est un truc d'observation de flics de base,
certes,
et quand tu vois les deux mecs louches,
mais en fait je pense que ça génère des problématiques un peu plus loin, mais je finis le pitch.
Ouais, vas-y.
Et donc, en fait, en remarquant, en fait, qu'il y a des activités suspectes, il se rend compte qu'au fur et à mesure, au moment même, ce soir-là, en fait, où il y a je sais pas combien d'avions qui sont en train d'atterrir à Washington, il y a l'extradition en fait d'un général sud-américain,
d'un dictateur,
voilà, vers les États-Unis, quoi. Et donc, en fait, les activités suspectes, c'est des mercenaires qui essayent d'exfiltrer le type, quoi. Donc, bon, tout ça, c'est déjà un gros truc.
Donc, c'est déjà un peu tiré par les cheveux.
Et par-dessus le marché, il y a donc l'avion de sa femme qui, voilà. Et comme les terroristes finissent par bloquer, se faire connaître, et finissent par bloquer, en fait, l'aéroport et en prendre le contrôle, tous les avions qui sont dans l'air, en fait, se retrouvent en suspens.
Et sont des otages, en fait.
Ouais, sont des otages, en fait, potentiels, avec le fuel qui commence à manquer. Et voilà. Donc, en gros, t'as McClane qui se retrouve, en fait, contre les autorités, contre l'organisation de l'aéroport, contre tout ça, malgré lui, à devoir essayer de sauver sa femme, quoi. C'est ça, l'idée. Donc, tout ça, c'est le pitch de base.
T'as pas dit d'où venait le général?
C'est quoi, c'est Cuba? Non, mais non, c'est Valverde
voilà,
qui alors oui, Valverde, parce que c'est le faux pays sud-américain
inventé dans Commando
comment, par Steven De Souza. Voilà.
Ça,
et ce qui est d'ailleurs très drôle, c'est que moi j'ai plusieurs fois interviewé Steven De Souza, et en fait lui, il se marre là-dessus, parce que en gros, il y a un type qui a fait un article tu sais, t'as tous les Cinematic Universe, et en fait, t'as un mec qui a fait un article sur le Valverde Cinematic Universe. Donc, vous pouvez, si vous parlez anglais, vous pouvez chercher cet article. Il existe, en fait, et le mec fait plus ou moins une blague sur Marvel et tout ça. C'est un petit peu un truc méta, quoi. Et donc voilà. Donc effectivement, c'est un détail, hein, tu vois, que les cinéphiles ou les cinéphages remarquent, quoi. La problématique, en fait, par rapport à tout, je trouve, en fait, à cette suite, et si on l'aborde en tant que suite, c'est que, certes, si on compare le personnage de McClane à Die Hard 4 ou Die Hard 5, il est infiniment plus sympathique que dans ces films-là. Mais comparativement au 1 et au 3...
C'est un peu un connard des années 90, fin 80, quoi.
Voilà,
en fait,
personnage qui est présenté de cette manière-là.
Et ce qui était marrant, c'est qu'il était construit un peu en réaction à tous ces personnages-là, le McClane du premier. C'est-à-dire que, voilà, on était revenu à un mec très humain, qui se faisait mal, qui, comme tu le disais, était assez passif, mais était aussi un peu maladroit dans ses relations sociales et tout. Alors que, par exemple, moi, je me rappelle, il y a un truc qui m'a toujours choqué, en fait, dans le truc, qui est dans le 2, ouais, il doit faire faxer, en fait, un truc. Il se fait draguer par la nana, il la jette, et en plus il la jette de façon pas sympa, quoi, en fait. Il est pas charmant à ce moment-là et tout.
Ça, en fait.
Et tu te dis, mais en fait, ouais, ça c'est juste un gros bras, enfin, tu retrouves pas le McClane qui est proche de toi,
mais
finalement.
Mais il
n'y
a pas,
quoi,
que ça, en fait. C'est-à-dire
que nous ne sommes pas comme ça, Stéphane et moi, nous sommes des gens très humains et un peu timides.
Ouais, non, mais indépendamment de ça, le truc, c'est que donc tu as cette petite blague, cette petite dragonnette.
C'est important, c'est ce qui caractérise le personnage.
Certes, il y a cette dragonnette, il y a le fait que quand il va retrouver Marvin, en gros, et que Marvin, c'est un personnage, en fait, qui vivote, en fait, dans les entrailles de l'aéroport. Et
à un moment, il le menace de le flinguer, carrément.
Ouais, il menace carrément de le flinguer. Tu comprends pas pourquoi ils sont potes à la fin, clair. Tu vois. C'est tout un tas de trucs.
Alors
comme
qu'il
ça,
y avait
en fait.
Un truc et un potentiel sympa avec ce personnage.
Voilà. Et avec pas mal de punchlines, finalement, assez désagréables, en fait. C'est-à-dire que les punchlines du premier, tu sens qu'en fait, ils défient l'autorité. Alors que là, en fait, il les prend vraiment au-dessus. La grosse distinction, je pense, en fait, entre le personnage de McClane dans le premier et le personnage dans le deux, c'est que, il est en opposition d'un personnage aussi suave et intelligent que, comment dire, et cultivé que Gruber. Et en fait, c'est pour ça que Gruber est très bien habillé, que c'était déjà un truc très différent dans le premier à l'époque, en fait, parce que les personnages de méchants n'étaient pas présentés comme ça. C'était pour l'opposer au côté prolo de McClane. Prolo, mais quand même intelligent. Sauf que son intelligence se révèle au fur et à mesure du récit. Là, tu sais ça, t'es censé savoir ça, et effectivement, t'as l'impression que par moment, dans le 2, bah, il se bétifie un petit peu, quoi. Mais... alors, je sais pas ce que t'en penses.
Il y a un autre truc aussi sur la suite. Il y a un autre truc que je voulais dire, c'est que on sent bien dans le pitch que c'est complètement tiré par les cheveux. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit à nouveau Noël, il faut que ce soit à nouveau sa femme qui soit dans l'avion.
Et quitte à faire revenir des persos qui n'ont pas vraiment grand intérêt.
Voilà, et il y a le personnage de journaliste qui se retrouve à nouveau dans l'avion avec sa femme.
Voilà.
Et donc tu sens que, et je parlais tout à l'heure du côté malin de McClane, mais à un moment il faut à nouveau qu'il repasse par un conduit, et évidemment il va refaire des blagues.
Des
blagues sur le conduit et tout. Enfin, c'est tout juste, il y a un moment, il ne doit pas se remettre pieds nus, quoi.
Mais je pense qu'ils ont suivi, en fait, un truc. C'est Steven de Souza qui m'a raconté ça. Si vous regardez sur Internet, il y a un tout premier teaser qui a été tourné apparemment quasiment un an avant le démarrage du tournage, pour les exploitants, pour leur faire comprendre qu'il y avait une suite qui allait arriver, puisque celui-là avait été vraiment un carton surprise. Et ce teaser a été tourné par Steven de Souza. Et c'est Bruce Willis qui est dans un couloir, en fait, pas vraiment identifié. Ils parlent de... Tu sais, il y a une mise en place sur les aéroports, en fait, en carton. Donc, on sait que ça va se passer dans un aéroport. Et là, tu as Bruce Willis qui arrive. Il y a une explosion derrière lui. Il est en train de courir, etc., etc. Il arrive,
pourquoi
il se pose devant la caméra.
Mec,
Putain, mais comment est-ce que la même chose peut arriver au même gars là, deux fois de suite? Et il repart avec la petite musique à la Die Hard et tout. Die Hard 2, Die Harder. Et c'est le titre... c'est pareil, je trouve que le titre, il est débile. Die Harder, c'est tellement débile comme logique.
Alors, je préfère, moi, c'est un des rares cas, les deux premiers Die Hard, où je préfère le titre français au titre original.
Ah, 50 minutes pour vivre. Oui, mais Die Hard, moi, j'aime bien le titre original. Tu connais l'anecdote sur ce titre-là. C'est Shane Black qui l'avait trouvé. C'était le titre du Dernier Samaritain à la base, sauf que Joel Silver, comme à son habitude, en fait, il l'a racheté Mais je l'avais peut-être raconté dans le podcast sur Shane Black. Écoutez, vous avez deux fois la même information pour le même tarif de Tipeee, quoi. mais disons que, en gros, ce titre Die Harder, pour moi, il développe un peu la débilité un peu de ce film-là, parce que c'est un film que j'aime bien, Die Hard 2. Hein.
C'est un peu bête et
mais
méchant,
c'est un truc de gros bourrin.
Voilà,
je pense que t'as pas un mec aussi. raffiné et intelligent. Ah non, et là, ça, je vais le clair. Dire clairement, en fait, pour un mec comme McTiernan, tu vois, et que t'as que des gros bourrins qui ont fait ce film, quoi.
Oui, c'est sûr. Par exemple, il y a un truc, je pense, qui faisait partie de l'identité du film. Et c'est pareil, ça, à mon avis, ça fait partie des choses où il a fallu qu'ils en parlent, qui était la maestria de mise en scène, et notamment les mouvements d'appareil et tout. Et il bouge beaucoup sa caméra, Rainer Lynn, et c'est sympa et tout, mais c'est souvent complètement vide de sens. Il y a un mouvement de grue pas possible après un crash d'avion pour arriver sur McLean qui est au milieu des débris, qui signifie finalement pas grand chose par rapport à la complexité de ce truc de machinerie, quoi. Et je trouve que d'ailleurs, dans son découpage, souvent il y a notamment des gunfights qui sont difficilement compréhensibles, voire qui, au niveau de la, comment dire, de la positionnement dans l'espace, en fait, des personnages, ils sont débiles. Moi, je trouve que la scène où il y a un des ennemis qui est au sommet d'un échafaudage, et McLean, en fait, qui se met sur le côté pour repousser l'échafaudage, j'ai toujours trouvé ça débile, parce que son seul atout, c'est qu'il se voit pas, en fait, à ce moment-là. Et lui, il se met sur le côté. Donc tu te dis, mais pourquoi l'autre, il va pas sur le côté? Parce qu'ils sont bien qu'on le pousse et il tire pas directement dans McLean.
Comme
c'est
tu
débile
l'as dit,
que McLean
comme tu l'as dit, comme tu l'as dit, c'est un film qui a été un film à problème. C'est un film qui a été lancé avec... à la base, c'est un film qui coûte 60 millions de dollars, ce qui était monstrueux à l'époque. Ah, il y avait deux films qui avaient coûté ce tarif-là à cette époque-là, c'était ça et Total Recall. Et c'était vraiment, en fait, ils se disputaient le plus gros budget, et je crois même que c'est Die Hard 2 qui avait le plus gros budget à la fin. À la base, il a été budgété à 40. Mmh. Et effectivement, tous les problèmes dont tu as parlé, c'était une chose. Et comme c'est un film qui s'est fait très très vite, ils ont commencé à tourner un mois avant Noël
pour
une sortie.
C'est ce qu'on appelle un wet print. Voilà, c'est-à-dire quand on faisait encore des tirages de copies chez photochimiques, il arrivait, enfin, c'était la grosse légende que la pellicule n'ait pas le temps de sécher le temps qu'elle arrive chez
voilà,
les
exploitants. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, une des personnes qui est spécialisée dans les wet prints et surtout des films d'action à cette époque-là, c'était Stuart Baird, qui est un monteur, en fait, très très efficace.
Bon monteur.
Un bon monteur très efficace, mais pour moi, il fait partie aussi des problèmes de Die Hard 2. C'est-à-dire qu'il a peut-être réglé, le film tel
moi,
qu'il fallait le régler pour qu'il sorte dans les
le
temps.
Film, ouais, ça, c'est sûr.
Ça, pour le sortir dans les temps. Ouais. Mais par contre, je pense que l'un des autres problèmes, c'est que t'as l'impression que c'est un type, on lui dit, bon mec, voilà tous les plans que t'as, il a tout foutu dedans, et notamment la scène dont tu parles. Ce qui est assez hallucinant, c'est que t'as Bruce Willis, en fait, qui est d'abord, en fait, dans l'échafaudage, et t'as des plans, il rajoute des plans qui sont probablement des plans qui sont volontairement clairs, mais si tu cherches à les analyser, tu vois que c'est des plans qui n'étaient pas censés être là. T'as un des ennemis qui est caché derrière un bidon, qui est en train de tirer, il tire pas vers McLean.
Non, c'est sûr.
Dans ce moment-là, en fait, tu veux spécifique où ils sont en train de tous de tirer vers le haut. Donc t'as plein de problématiques, ça rajoute des problématiques de gestion d'espace qui, bon, étaient peut-être là déjà, on va dire.
Moi, je pense que ça vient
quand
même
tournage,
de Rainer Lynn que de. Parce que je trouve qu'en même temps, je te trouve un peu raide sur Storba, parce que je trouve que le film est quand même assez énergique. C'est un film qui dure 2h10. Ça va, quoi.
Ouais, mais j'ai toujours eu ces problèmes-là. Alors, Stuart Baird, pas forcément sur ses films à lui, hein, mais en fait, en tout cas, parce qu'il est devenu réalisateur après.
Quoi.
Mais en fait, j'ai toujours eu le problème, en fait, que tant il s'est retrouvé à sauver des films, t'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière, en fait, si tu veux, et de jump cut et trucs comme ça, de raccords dans l'axe, en fait, qui pour moi était censé aider à la lisibilité, mais qui, je trouve, en fait, enlevait un peu d'impact. Et notamment, par exemple, il y a une autre scène où je pense que son apport est là aussi. C'est une scène où McLean, parce que donc il se retrouve en fait à se battre contre tous ces terroristes, etc., etc. Et il est plus ou moins, c'est un jeu du chat et la souris malgré tout, mais à l'échelle de l'aéroport comme dans le premier. Alors je dis comme dans le premier, mais pas vraiment, parce que c'est beaucoup plus explosif. T'as notamment une scène où il est coincé dans un cockpit de comment dire. Alors moi j'ai une théorie sur ça, c'est ce que j'appelle la grenade atomique. Tu vois, c'est-à-dire que moi, en fait, j'adore les grenades atomiques. C'est une grenade normalement, quand tu sais ce que c'est censé faire comme dégâts. Et que tu les vois en train de faire des explosions absolument.
C'est les explosions de ces époques-là aussi qui sont à base d'essence.
D'accord, mais Rainer Lynn, il est très dans Au revoir à jamais. T'as une grenade dans un couloir et ça fait un couloir de feu absolu. Quoi.
Mais ça,
moi, j'appelle ça la grenade atomique.
Je te permets. Bon, je trouve ça même. C'est une excellente expression, mais ça faisait partie de la mode de ces périodes-là. C'est-à-dire que c'est des explosions, si on peut être un tout petit peu technique, qui se faisaient beaucoup, beaucoup à base d'essence, en fait. Finalement, c'était pas le seul danger, en fait, du coup, de ces explosions-là, c'était la chaleur qu'elles pouvaient dégager, mais pas les dégâts en soi qu'elles pouvaient faire. C'est des explosions qui sont relativement inoffensives, hein, finalement. Encore une fois, excepté cette problématique de chaleur. Et ce qui est rigolo, c'est que celui qui va tout changer là-dedans, Il y a un peu le soldat Ryan, mais il y a surtout Die Hard 3 qui va complètement bouleverser en fait l'approche de l'explosion, puisqu'on sera sur des explosions qui pour le coup seront beaucoup plus réalistes sur Die Hard 3, qui seront des explosions à base de finalement de poussière en fait, principalement.
Mais donc dans Die Hard,
qui ne se voyait pas à l'époque.
Dans Die Hard 2, t'as cette scène où il est coincé dans un cockpit et l'idée est plutôt sympa en plus en soi, elle est plutôt marrante quoi. Mais et puis le plan est assez chouette. Moi je trouve à l'époque il était assez impressionnant. Moi je trouvais en tout cas. Tu vois.
Il faudra que je parle des effets spéciaux
voilà.
après.
Mais et donc en fait t'as tous les mercenaires, les terroristes en fait qui balancent en fait chacun leurs grenades. Ils ont chacun peut-être deux ou trois grenades. Ils en balancent, ce qui fait que tu te retrouves avec une dizaine de grenades dans le cockpit. Et t'as Bruce Willis, en fait, le seul moyen qu'il trouve pour se sortir de la situation, puisqu'en fait il est coincé, il peut pas sortir, la porte est verrouillée. En fait, c'est qu'il se trouve dans le siège éjectable, il balance, et là t'as un plan en vue du dessus, en fait, où t'as une explosion plongée, monstrueuse, quoi, et t'as Bruce Willis qui est éjecté avec le siège. Là, Stuart Baird, si tu veux, t'as l'impression qu'il a dit je vais utiliser tous les plans. C'est-à-dire, la scène, elle dure littéralement une minute, montre en main, de mec qui envoie les grenades, en fait, et Bruce Willis qui essaye de s'accrocher et tout.
Moi, c'est... ça va, parce qu'il y a Michael Kamen qui est vachement bien aussi là-dessus. Moi, j'aime beaucoup le score.
Mais qui fait aussi une répétition quand même du premier.
Du premier, mais il y a deux, trois trucs. Par exemple, moi,
moins évidemment l'Himalajoie.
Ouais, bien sûr. Mais, par exemple, moi, je trouve que sur Michael Kamen, je trouve que l'attaque, par exemple, de la course de motoneige, là, par exemple.
C'est du métier, hein. Ça, c'est Michael Kamen, c'est formidable, ce qu'il fait en général.
La musique, elle est super, par exemple, à ce truc-là. Et je trouve que dans la scène des grenades, elle est intéressante. Et sur cette scène-là, dont tu parles, et qui était vraiment l'extrême, dont moi, je me souviens, c'était le truc qui passait beaucoup à la télé et tout, quand il faisait la promo, quoi.
C'est un money shot,
cette séquence-là, c'est un money shot, très clairement. C'est ILM qui avait fait les effets spéciaux du 2. C'est intéressant, quand même. Je peux en parler peut-être un petit peu, quoi. C'est, Die Hard fait partie du premier vraiment des films qui se sont appuyés sur les effets visuels en fait pour grossir le spectacle et le décorréler aussi petit à petit en tout cas de la réalité. C'est un des trucs qui sont hyper payants et qui feront dire à MacTi, nous si on sait faire du cinéma d'action chez nous aux États-Unis, c'est que nous on a les cartoons et vous les avez pas en France. Et c'est vrai que du coup il y a un truc bigger van life qui s'instaure et qui est très bien introduit par MacTi évidemment dans le premier, mais le premier ingénieur, et qui va être répercuté en fait dans le 2. Et ce qui est intéressant, si vous aimez les effets visuels dans 50 minutes pour vivre, c'est que c'est un film qui est à l'ornière en fait, qui est sur la passation. C'est-à-dire que ce plan-là avec MacLaine qui arrive, bah il a mal vieilli parce qu'on était encore dans le photochimique. Mais même déjà à l'époque, je me rappelle que c'était un petit peu dur. Moi, je me rappelle à acheter ce truc-là. Et c'est un film qui par contre fait beaucoup appel aux maquettes. Il y a énormément de maquettes.
Le plan final, et moi je trouve.
Et justement, le plan final qui est par contre un plan numérique.
Ouais,
c'est un des premiers plans.
C'est un des
premiers plans numériques. C'est une peinture sur verre que j'ai eu la chance de voir à ILM, qui était encore exposé à ILM, faite par un japonais qui s'appelle Yusei Uesug. Alors j'espère que j'écorche pas trop son
nom. Je pense que tu l'as complètement écorché là. Je suis pas japonais, mais je suis offensé.
C'est un mat qui a été très compliqué en fait, et on peut se dire, mais pourquoi ils ont fait un plan aussi compliqué? C'est qu'ils voulaient louer en fait tous les avions, mais ça coûtait hyper cher. Je crois que c'était genre 500 000 $ pour les plans et tout, parce que tu mobilises pas des avions de ligne comme ça.
Il y a pas beaucoup d'argent dans ce film,
Non. Et donc, enfin, c'était moins cher de le faire chez ILM pour ça. Mais par contre, ça nécessitait un matte painting hyper grand, en fait. Le matte, je crois qu'il fait 4 mètres sur 1,5 mètre en fait, de hauteur, et 4 mètres de long. Et en plus, les avions, c'est un des trucs les plus difficiles en fait à peindre en peinture en trompe-l'œil comme ça, parce que t'as rien pour te cacher, c'est tout lisse. Donc c'est un vrai tour de force en fait qu'il avait fait là. Et le truc, c'est que le plan, tu l'achètes aussi parce qu'en fait, il y a 4 ou 5, je crois, je me rappelle plus du nombre exact, d'éléments filmés pour de vrai, qui sont incrustés à gauche, à droite, en fait, avec des ambulances qui partent, etc. Donc tu commences avec un vrai plan qui a été tourné sur place, avec les acteurs, etc. Et tu dézoomes, et petit à petit, tu vois, en fait, une vue globale, en fait, avec tous ces avions qui sont parqués ici et là. Et en fait, c'est John Knoll, qui est un des pionniers, en fait, des effets numériques, et qui est un vrai génie, en fait, dans le genre ILM, qui a dit au gars, écoutez, moi, je suis en train d'écrire avec mon frère un petit logiciel, mais il marche pas sur les Silicon Graphics qu'on utilise comme ça d'habitude à ILM, il marche que sur les Mac, ça s'appelle Photoshop, et avec ça, je pense que vous allez pouvoir faire un composite en fait de toutes ces images qui sera.
Parce que t'as des gens qui se baladent dans le plan et tout ça.
C'est ça.
Voilà, quoi.
Et les
personnages-là, de toutes. Enfin, je veux dire qu'on soit clair, sont pas en numérique.
Bien sûr, à l'époque, c'était pas possible. Voilà. Mais les mecs sont. Alors, ça a été une prise de tête monumentale parce qu'ils avaient pas de mémoire disque à l'époque.
Moi, je trouve qu'il a super bien vu ce plan, quoi.
Et non, c'est vrai. vrai, c'est clair. Le seul truc qui a un peu mal vieilli, c'est que tu sens le scan numérique encore, qui est typique aussi de l'époque. Mais c'était un vrai tour de force. Et c'est marrant de voir que dans le même film, en fait, t'as cette incruste un petit peu compliquée, que t'as des maquettes qui sont hyper bien.
Oui, mais t'avais un wow factor, en fait,
oui,
comme
qui
on dit.
Fonctionnait,
voilà, aussi, c'est ça le truc.
Et, que t'as des maquettes qui sont vraiment, viennent justement des films catastrophes auxquels le film fait référence. T'as même une maquette d'aéroport. T'as une petite Ilsa, la tigresse du goulag, qui se balade, en fait, dans une tour de contrôle. D'accord. C'était un gag que les mecs, ils avaient foutu, tu vois, pour quand il y a l'antenne qui explose. Je sais pas si tu te souviens de ce plan-là.
Ça, c'est juste après la scène d'action. Juste après la scène d'action.
Exactement. Donc, c'est marrant. Au niveau, si vous aimez juste les, enfin, si vous êtes fanat des effets visuels et tout, c'est un film qui, mine de rien, important, parce qu'il est à la croisée des chemins, en fait. C'est un coutume pour vivre, ce qui n'est pas le cas, par exemple, vraiment le cas d'un film comme Total Recall à l'époque, qui était beaucoup plus dans son époque et ancré dans son époque, à quelques exceptions près. Voilà.
Alors, moi, le truc que j'aimerais rajouter aussi sur la
parenthèse geek qui est refermée.
Voilà, sur le personnage de McLean, en fait, c'est qu'il y a un truc que j'ai toujours trouvé génial et qui ne fait plus dans le 3 d'ailleurs aussi, hein, mais clairement, ça a été amorcé dans le 2. Mmh. Dans le 3, c'est géré différemment, je trouve, en fait. Mmh. Mais dans le 2, en fait, dans le premier, McLean ne tire pas, en fait, le premier. Jamais. C'est-à-dire, il est toujours dans la conversation. C'est aussi un des problématiques, en fait, que pas mal d'acteurs, d'action stars, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont refusé le film. C'est qu'en fait, le personnage de McLean, et ça, je pense que c'est vraiment, déjà, je pense que c'était un peu ancré dans le scénar, mais surtout, je pense que ça vient de McTiernan.
C'est sûr.
C'est, il ne tire qu'en cas de légitime défense. C'est-à-dire que c'est un vrai flic. Il a une vraie logique, alors peut-être pas comme ceux qu'on a aujourd'hui hein, aux États-Unis, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est un vrai flic tel que c'est censé être son sacerdoce, on va dire, tu vois. Et en gros, il est censé à la base protéger et servir. Donc en fait, en premier lieu, il n'a pas la gâchette facile. Dans Die Hard 2, Bruce Willis, il a rien à foutre. Tu vois, il y va, il tire dans le tas. Il y a que le premier mec en fait qui lui tire dessus quand il leur demande leur identification. Mais après, c'est
beaucoup plus flou. Puis c'est surtout qu'il est.
C'est
hyper...
la fête du slip, quoi.
Mais c'est hyper cruel. Alors ça fait partie du plaisir, moi, que je ressens au film, c'est-à-dire que c'est un film. Je crois que c'est le film. Ils sortent en même temps que Robocop 2, donc Total Recall, qui sont aussi des films hyper violents. Je pense aussi que pareil, là, Hollywood avait atteint un point de non-retour au niveau de la violence. Et on en a parlé dans l'épisode des As, mais Hotshot se moquera en fait de ça. Et je crois que c'était 50 minutes pour vivre qui avait remporté le.
Alors,
le
record, raison,
c'est pour l'avion, évidemment.
Pour l'avion, mais justement, mais j'aimerais parler de cette scène qui est, pour moi, à mon sens, la scène la plus couillue du film, qui a été un problème hein, à l'époque, parce que ça, j'en ai parlé avec Steven De Souza, quand ils ont écrit cette scène. Pour moi, cette scène, elle est primordiale. C'est même le...
Faut l'expliquer quand même. C'est un crash d'avion. Enfin,
en gros,
en représailles, les méchants qui manipulent totalement l'aéroport et donc la tour de contrôle. En représailles des actions notamment de McLean.
Parce qu'ils ont désobéi.
Ils décident de faire crasher un des avions remplis de passagers auparavant. Voilà. Et ils se crashent, et ils se crashent pas qu'un peu. C'est-à-dire qu'avant, et ça, quand j'ai revu le film, je me souvenais plus s'il montrait les passagers. Mais non seulement il te montre les passagers, mais il te montre qu'il y a une petite vieille toute gentille, il y a un petit gamin qui est là dans l'avion et tout. Et ils vont tous y passer quelques minutes plus tard, alors que McLean est en train d'essayer.
Cherche à les sauver.
Cherche à les sauver.
À l'époque, Steven De Souza, quand ils ont balancé cette idée-là, la Fox a fait on peut pas faire ça. Les gens vont détester McLean, c'est pas possible. Et en gros, Steven De Souza et Joel Silver leur disaient si, les gens vont adorer McLean parce qu'il essaye de les sauver et il n'y arrive pas. Et ça va l'humaniser. Ce qui était hyper important parce qu'effectivement, tu es obligé de te poser la question quand tu as un personnage qui est, en tout cas en tant qu'action héros, plus humain que les autres action héros de l'époque. Hein, c'était ça la logique de McLean. Maintenant que tu sais que c'est un héros à la fin du premier, comment est-ce que tu le remets, on va dire, à échelle humaine en fait. Et l'idée, c'était leur idée.
De le mettre face à un échec.
De le mettre face à un échec monstrueux, quoi, parce que c'est le plus gros échec. Donc c'est pour ça que je trouvais que tout ce qui avait été un petit peu reproché à l'époque dans les Hollywood reporters, les machins, etc., sur le fait que c'était l'escalade à la violence, c'est vrai pour les autres scènes du film. Mais celle-là, elle est, narrativement parlant, elle est primordiale. Utile. Tu vois, elle est primordiale pour le personnage et pour le cœur. Le seul problème que j'ai avec cette scène, c'est ce qui arrive plus ou moins derrière. C'est-à-dire que les mecs, ils s'en débarrassent vaguement parce que Bruce Willis se retrouve à ramasser une peluche de gamine. Tu vois, et en fait, on n'en reparle plus jamais. Ça n'a presque plus d'incidence sur le personnage derrière, et ça, c'est quand même dommage. La solution de rechange qui avait été trouvée, mais qui n'aurait absolument pas fonctionné, à mon avis, hein, c'est que plutôt que de prendre un avion de 250 passagers, l'idée, c'était en fait d'avoir un avion transporteur UPS ou je sais pas quoi, tu vois, en fait,
avec
deux mecs. Voilà. Et en fait, McLean n'arrivait pas à sauver ces deux gars-là, tu vois. Et je pense qu'en fait, ça aurait largement amoindri l'impact de la séquence et du film, quoi. Et en fait, ça, c'est cette scène-là, plus quelques petits trucs, alors qui n'ont rien à voir en fait avec la choucroute, mais plus quelques idées où tu sens que c'est à la Steven de Souza, c'est-à-dire t'as les balles en fait
à blanc,
les balles à blanc en fait où tu échanges les trucs avec quand c'est rouge c'est des vraies balles, quand c'est bleu c'est des balles à blanc. Ouais. Toutes ces petites idées là, c'est les petits trucs je trouve en plus qui sont ludiques dans
c'est
le film.
C'est sympa, c'est clair.
Voilà, t'as alors cette idée complètement farfelue, c'est d'ailleurs je pense même que tu pourrais pas écrire parce que en fait. Là, pour le coup, les armuriers en fait se sont battus contre la prod sur le scénar en fait en disant mais ça n'existe pas, vous pouvez pas faire ça en fait.
Ouais, pas avec ces pistolets mitrailleurs.
Voilà, déjà ces pistolets, tu peux pas faire ça. Mmh. C'est-à-dire que ça aurait pété si tu tirais à blanc, ça aurait pété le canon. Mais aussi, il y a une idée au début où en fait justement les terroristes ne se font pas repérer parce qu'ils se trimballent avec un Glock. En plastique.
En porcelaine.
En porcelaine, ouais, c'est ça. Et en gros, ça n'existe pas non plus. Et en fait, l'armurier a fait, mais vous pouvez pas faire ça, les mecs. En fait, c'est faux, quoi, tu vois. Mais je pense que ça n'existerait plus vraiment aujourd'hui, ça ne serait plus de la même manière. Ou en tout cas, tu le remarques, en fait, quand il y a des moments de flûte comme ça, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque, parce qu'à l'époque, on se disait, putain, c'est vrai, ça existe un flingue en porcelaine, c'est quoi ce délire et tout, tu vois. Et en gros, bah non, ça n'existe pas. Mais c'est
pas très grave, moi.
Non, c'est pas très grave, mais je pense qu'en fait, c'est le genre de truc qui, aujourd'hui, en fait, en fait, ça serait double, triple checké, en fait, par la prod, en fait, pour laisser passer ça.
Moi, je veux dire, le film est quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de ses défauts et tout, mais y a, parmi les trucs que j'aime bien, moi je trouve qu'il y a quand même une belle énergie dans le truc, mine de rien, et y compris dans la mise en scène de René Harlin d'ailleurs.
Ouais,
je trouve que le film est beaucoup moins mou que Cliffhanger par exemple.
Ouais, ouais, certes.
Et
il donc, est beaucoup plus mou que Die Hard.
Non, mais bien sûr, ouais, voilà. Évidemment, mais tu compares.
Non, mais t'es obligé.
Voilà,
en fait,
c'est classique des classiques.
Mais ils se comparent par eux-mêmes parce qu'en fait, le truc c'est que pour des gens comme nous qui avions découvert Die Hard à l'époque, c'était même pas qu'on avait vu un film d'action, c'était qu'on avait vu un très grand film, tu vois. Et le truc, c'est qu'on on s'en rendait pas forcément compte parce que c'était pas la perception du film à l'époque.
Moi, je l'ai vu à rebours, en fait, le premier d'ailleurs. Je me suis dit, putain, oui, c'est beaucoup plus... Ça, je me suis même dit, c'est beaucoup moins généreux au niveau de l'action. Enfin, il y a beaucoup moins d'explosions, de trucs comme ça et tout. Mais par contre... Putain, qu'est-ce que c'était évident que c'était beaucoup plus raffiné aussi, quoi. Enfin, que c'était, c'était comme.
Ouais.
Mais
c'était pas forcément la perception des critiques à l'époque, parce que justement, en fait, le truc, c'est. Moi, je me rappelle très bien que, par exemple, je citais clairement un magazine. Hein, le premier, à l'époque où j'avais 12 ans, le premier français avait tapé sur Die Hard à l'époque, tu vois, en disant c'était un entrefilet comme ça de 5 lignes, en disant c'est nul, hein, on s'en fout, tu vois. Et deux ans après, juste deux ans après, hein, alors tu me diras peut-être que la rédaction a changé, c'est pas la même personne, etc. Mais t'avais une pleine page de critiques sur Die Hard 2 en disant « Ah, c'est super cool, c'est sympa », tu vois, avec une réhabilitation du premier en plus, en prime, quoi. Et je m'étais dit « Ah ouais, d'accord, donc en fait, on est dans deux approches différentes. » Et du coup, je pense que la réception critique de Die Hard 2 a été aussi, au moment où c'est sorti, hein, plutôt bonne, parce que le premier, en fait, avait ce statut de classique très rapidement derrière.
C'est clair. Et il y a un autre truc que j'aime bien dans le film, c'est qu'il y a quand même deux, trois trucs de mise en scène qui viennent, je pense, de René Harlin, que j'aime bien, et notamment un travail sur l'extérieur et l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup les intérieurs, en fait, de Die Hard 2. Ils sont très enfumés, ce qui se faisait beaucoup encore à l'époque, mais ils sont surtout travaillés dans des lumières chaudes et avec énormément de bordel tout le temps. Et ça contrebalance évidemment complètement à l'extérieur, qui sont plutôt, alors à part quand tu es aux abords de l'aéroport, mais finalement c'est presque traité comme des intérieurs aussi. Mais sinon, ils sont plutôt sans personne, notamment quand tu es sur le tarmac, parce qu'évidemment il n'y a personne à cet endroit-là, dans des couleurs bleutées donc des trucs plutôt épurés. Ça fonctionne aussi sur la poursuite en motoneige, là. Et je trouve qu'il y a.
Donc là, qui sort complètement de derrière, là, peut-être dans un James Bond. Là.
Ouais, mais c'est pas grave. Hein, moi, je sais, au niveau des cascades, elle est plutôt cool d'ailleurs sur cette scène. Et je trouve que ça fonctionne bien parce que ça contribue à ajouter un vrai dynamisme en fait au film. C'est-à-dire que t'es tout le temps contrebalancé, c'est le chaud et le froid littéralement en fait le film.
Ouais.
Et je trouve que ça fait partie des choses qui fonctionne plutôt bien en fait dans le film. Et puis parce que finalement on tourne autour du pot et tout beaucoup, mais il y a encore une fois cette violence. Elle est quand même réjouissante, c'est-à-dire que c'est il y a quand même un mec qui se fait flinguer avec un stalagmite dans la gueule en glace.
Ben on l'a mis d'ailleurs dans l'épisode de Stéroïdes, on ne reverra jamais. On a fait un point.
Oui, je l'ai bien sûr, mais c'est super. Enfin, tu vois, c'est rigolo. Enfin,
un point overkill, mais ça c'est la fabrique de René Harlin pour le coup, les surviolences et tout. Puis Joel Silver, parce que dans le dernier Samaritain, t'as un mec qui finit sur des pales d'hélico, laisse tomber.
Exactement. Mais là, bon, il y en a un qui tombe dans un réacteur aussi.
C'est ça.
Rigolo, t'as un mec qui se fait égorger, puis tu vois bien comment il se fait égorger et tout. Et enfin, il y a un dernier petit truc qui est aussi le cast. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce plaisir de retrouver plein de second couteaux du cinéma d'action, enfin même du cinéma tout court, et qui sont vraiment des acteurs super chouettes en règle générale. Bah,
déjà
gueules et
en
tout,
premier
quoi.
Lieu, t'as comment il s'appelle, Franco Nero.
Ouais,
moi j'adore,
super,
voilà, qui est super, tu
il
vois.
Est trop bien quoi.
Il, bon, il parle pas très bien espagnol quoi, hein, parce que c'est un italien, mais.
Un pendejo de cop. J'aurais un truc
et
comme
tout,
ça quoi.
T'as tout, mais t'as Fred Thompson qui est super.
T'as Fred Thompson, t'as aussi.
Denis Franz, il est super. Il ouais, est
Denis tout, Franz, pour moi, je l'adore dans ce film, c'est Monsieur Patate.
Ouais,
c'est flic quoi. Il le trouve mortel quoi. Mais t'as surtout, t'as William Sadler. Moi j'adore William Sadler. Et qui en plus est présenté. Alors là, mais. Et ça, c'est Renny Harlin qui est présenté en fait à poil en train de faire des katas devant la télé quoi.
Et qui dégaine sa télécommande comme s'il dégainait un flag. Elle est géniale, cette avec cette cube et cette lumière totalement orangée et tout, avec beaucoup de fumée et tout. Mais j'adore cette scène.
Et moi, j'aimerais te dire, pour terminer, peut-être, alors, il y a ces petits plaisirs. C'est vrai que c'est un film sympathique, mais c'est un film qu'on est obligé de comparer à Die Hard.
Et surtout du Die Hard 3. Et en fait, ouais, il est pris en tenaille entre deux chefs-d'œuvre.
Voilà,
c'est vachement
ça.
Compliqué, quoi.
Et justement, faire un petit mot sur le Die Hard 3 qui aurait dû être. C'est-à-dire qu'on en a un peu parlé. Mais l'idée, en gros, comme tu l'avais dit, c'est que pour eux, en fait, si tu veux, il y a une espèce de logique de film. De redites en fait, version action en fait, des films catastrophes des années 70. Donc t'avais La Tour Infernale avec le premier, avec Die Hard, t'avais Airport avec Die Hard 2, et donc en fait le troisième c'était l'aventure du Poséidon pour eux, c'est-à-dire que c'est pour ça que Bruce Willis devait se retrouver sur un paquebot avec sa femme, et en gros si tu veux, il se retrouvait coincé dans une histoire encore de terrorisme. Alors j'ai jamais trop su exactement, parce que je pense qu'ils n'ont pas vraiment écrit un scénar plus qu'une outline en fait, je pense que c'était ça, puisque très rapidement après Die Hard 2, donc il y a eu Piège en haute mer avec Steven Seagal, qui pour le coup en fait leur avait complètement coupé l'herbe sous le pied,
ouais,
quoi. Voilà. Et il a fallu réfléchir à comment faire un troisième Die Hard. Et ce qui s'est passé, c'est ça, j'en parle un petit peu dans le HS en fait, leur série Rocky Rama sur Die Hard. Il y a eu aussi un divorce entre Lawrence Gordon
et Joel Silver.
Et Joel Silver à ce moment-là, quasiment après la sortie en fait de Die Hard 2,
qui a été un carton atomique. Hein. Faut
voilà,
aussi
ça a été aussi un carton atomique parce que ça a été un très gros budget, mais c'est aussi, je pense en dollars constants, le plus gros succès de Die Hard en fait aux États-Unis. Je crois que c'est le 3 dans le monde entier. Pour voilà, mais par contre aux États-Unis c'est le 2. Le 2 avait rapporté je crois quelque chose comme 120 millions de dollars, ce qui était monstrueux à l'époque. En fait, il tâtonnait Total Recall là, vraiment on en était là quoi. Donc voilà, et donc en fait ils auraient dû faire ce truc là et puis ça s'est passé autrement et ils auraient dû faire ce Die Hard 3,
le reste ce sera pour la vidéo.
Voilà, c'est ça. Bah merci Julien.
Bon, voilà, merci, toi, merci Stéphane, merci Alain.
Voilà, merci Alain. Merci Alain à la technique. J'ai l'impression que c'est notre épisode presque le plus long, quoi. Sur Die Hard, va savoir, va comprendre, quoi. Vous pouvez.
Il y a plein de trucs à dire.
Voilà, bah oui, apparemment. Mais parce qu'on remet ça aussi en contexte par rapport au premier, quoi. Alors. Comme vous le savez peut-être, on a lancé un Tipeee. Donc, si vous voulez nous soutenir, si vous aimez ce qu'on fait et que vous pensez que ça mérite une petite pièce, eh ben, vous pouvez nous soutenir sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Vous pouvez nous écouter sur nos réseaux habituels. Hein, donc, vous pouvez nous retrouver pardon, déjà sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, tout ça. Je ne sais pas s'il y a un nouveau réseau social de ouf, en fait, on n'est pas sur TikTok. Voilà, tu vois.
Mais, faudrait une danse.
Un TikTok à la con avec Capture Mag.
Je veux bien faire ça. Je vais faire ça.
Tiens, ouais, tu vas faire TikTok Capture Mag.
TikTok Capture Mag.
Voilà, tu sais, en reprenant des punchlines de films français, de films américains, je vais dire en français quoi, en VF. Et puis vous pouvez nous écouter sur les plateformes habituelles, hein, c'est-à-dire déjà on est sur YouTube, on fait aussi nos vidéos, on a une chaîne, mais vous pouvez nous écouter sur notre site capturemag.net, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur
vous avez plus aucune excuse,
Deezer, voilà. En gros, si vous voulez pas nous écouter, vous savez,
c'est vraiment que vous voulez pas et que voilà, vous êtes pas gentil. Hein.
Voilà, c'est ça.
Mais heureusement, vous nous écoutez pas, donc vous entendez pas que je vous dis que vous êtes pas gentil, donc tout va bien.
Voilà, c'est génial. C'est bien foutu la vie, quoi. Ah, bien foutu le scénario, même. Quoi. Et voilà, bon, moi je vous dis à la semaine prochaine avec un autre gros film d'action. Ouais.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.